Comment les résistants parachutiers les tractent?
Alors, il y avait la plus grande partie des tracts, ça se faisait, on le passait à celui qu'on connaissait. Moi, j'ai dans la mémoire, j'ai rencontré une ancienne enseignante, une dame qui a 90 ans, qui était enseignante à Saint-Christophe-sur-le-Nez, et elle avait une collègue qui s'appelait Elisabeth Leport, qui imprimait, qui faisait un journal clandestin qui s'appelle La Lanterne. Donc, c'était sa collègue qui lui donnait le journal, et elle le lisait. Et elle m'a dit, j'avais fait une bêtise de le mettre dans le tiroir, quand je l'ai lu, de le mettre dans le tiroir de ma table de nuit. Elle a réagi. Et après, elle le mettait dans le grenier. Et cette Elisabeth Leport donnait aussi des journaux à un jeune mécanicien. Et avant qu'il ne soit arrêté, tout de suite, il les a brûlés pour ne pas qu'on retrouve trace. Donc, on le donnait de la main à la main. Mais ce n'était pas des paquets de 500. Hein. C'était 10, c'était 20, c'était 30 maximum. Hein, et on diffusait sur la Touraine, hein, ou on le glissait sous la porte. Hein. Et puis, il y a effectivement, de façon plus importante, par exemple, en région parisienne, les quelques jeunes qui avaient des vélos, eh bien, prenaient le vélo et allaient très vite et jetaient quelques papillons, quelques tracts comme ça. Et puis, il y a ceux aussi qui repéraient un endroit élevé, un pont au-dessus d'une route, on jetait quelques papillons, quelques tracts comme ça. Hein. Mais on courait toujours un risque, toujours. Donc, quand on avait décidé de faire ça, on savait qu'il y avait des risques.
Après la presse, la presse écrite, nous allons parler de la radio. Déjà, y avait-il des radios en Touraine ou des relais de postes de radio en Touraine?
Alors, je pense qu'il faut redonner sur le plan technique. Dans toutes les maisons actuellement, il y a 1, 2, 3 radios. À cette époque-là, avoir un poste de radio était une chose rare. Et la radio, c'était la radio officielle. Mais avait été instituée une radio clandestine qui venait de Londres. Et là, pour l'écouter, il fallait se cacher. On se regroupait à plusieurs. On avait confiance les uns dans les autres, hein, parce qu'on ne pouvait pas se retrouver au poste de radio avec quelqu'un qui n'était pas d'accord. Hein. Et voilà. Alors, il y avait quelques relais. Posséder un poste qui captait Radio Londres pouvait amener à l'arrestation aussi. Ou si on était surpris à écouter Radio Londres, il y avait des conséquences aussi. Je n'ai pas décrit. Alors, on m'a dit qu'il y avait un relais sur Amboise à un moment, mais je n'ai pas l'écrit qui précise. Autant là, j'ai pu vous lire le rapport, parce qu'on a pu avoir une copie. Pour certains autres faits, on n'a pas l'écrit.
Pouvez-vous nous donner des noms de radios clandestines?
La plus connue, c'était la BBC. Hein. Et puis avec tous ces messages codés, qui ont été très importants pour les parachutages.
Hein. Je crois que vous avez un petit texte concernant la radio.
Il y a Raymond Burgard, qui était professeur d'histoire au lycée Buffon, qui a écrit un texte qui parle de la radio. La BBC écoutera chaque jour avidement. Radio Paris laissera, car il est boche assurément. Avec De Gaulle, tu battras au grand jour du débarquement. Ceux de Vichy méprisera et leurs propos avilissants. Laval, Déa, tu châtiras et leurs complices mêmement. Et quand leur tête on coupera, tu danseras joyeusement, la Carmagnole chantera quand crèveront tous les tyrans. Comment, à partir du fait de la radio, eh bien, certains s'en emparent pour écrire des textes sur des petits morceaux de papier.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je pense que vous avez sûrement quelque chose à nous dire pour conclure.
Alors, je voudrais faire référence à un écrit là, qui parle effectivement des petits papiers. Et quand vous parliez de langue allemande, c'est un texte qui fait référence au monsieur dont je parlais, qui est Yves Lejard, qui travaillait. Il dit, il y a quelqu'un qui rapporte ce qui s'est passé. Des actes de sabotage sont exécutés sur les matériels entreposés ou en cours de réparation. Action s'effectuant sur un matériel déjà fatigué, malgré la surveillance de sentinelles allemandes évoluant parmi les installations. Parce que les travailleurs français travaillaient dans les entreprises, mais étaient sous la surveillance des sentinelles allemandes. Ces résistants sont chargés aussi de la diffusion de tracts et de journaux clandestins dans les quartiers de la ville, documents provenant du Front national de lutte contre l'occupant, à ne pas confondre avec ce que nous appelons le Front national actuellement. Et ces tracts sont apportés par Yves Lejar. Certains tracts sont rédigés en langue allemande et placés en divers points des casernes pour amener les Allemands à aussi prendre conscience de ce qui se passe effectivement et qu'ils soient acquis à la cause des résistants. Et le 3 août 1942 au matin, comme il en a l'habitude, Yves Lejar se présente à son travail, juché sur sa bicyclette, tirant une petite remorque au fond de laquelle se trouve camouflé un paquet de tracts. Bien connu des sentinelles, il passe devant le poste de garde, mais il est interpellé peu après par la Gestapo et aussitôt arrêté. Ce fait nouveau que certains tracts étaient écrits en allemand pour que les soldats allemands soient acquis à la cause de la résistance. On ne le donne pas souvent, cet élément. Donc, vous êtes penché sur une période de notre histoire qui est très importante. Et nous travaillons dans ce qui est le devoir de mémoire, de savoir ce qui s'est passé.
Voilà, ben, merci beaucoup. Nous remercions tous les journalistes, donc Bastien, Thomas, Lucie, Mélanie, Élise, moi, Étienne, donc Thomas, Yann, Quentin et Paul. Et puis merci à vous, Madame Texi, d'être venue répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.